Bonsoir à tous les auditeurs du jeudi et bienvenue à notre rendez-vous avec le Brésil et à notre émission Araponga. Alors ce soir, il sera question de nourriture, des diversions, de cinéma et bien sûr de musique. Je vous propose d'écouter une interview que j'ai réalisée avec le Brésilien Marcos Jorge, réalisateur du film Estômago, actuellement à l'affiche au Diagonal à Montpellier. L'interview sera entrecoupée de musique, comme on fait d'habitude, des musiques qui parlent elles aussi des nourritures, et qui mettent, elles aussi, de l'eau dans la bouche, comme le film de Marcos Jorge, et aussi qui font rire. Voilà, donc j'ai choisi des musiques qui vont avec le film, qui parlent de cuisine et qui font rire. Je vous suggère donc d'attendre la fin de l'émission, peut-être, pour aller prendre votre repas du soir, parce que je vous assure que ça va ouvrir l'appétit et vous ne serez pas déçus. Voilà, donc le film Estômago est une fable sur la nourriture, le pouvoir, le sexe, avec beaucoup de références à la culture italienne, puisque les réalisateurs habitaient longtemps en Italie. Les héros du film est un migrant du nord-est du Brésil qui a du talent, qui découvre qu'il a du talent comme cuisinier et qui arrive à monter socialement dans le sud du Brésil. Il va tomber amoureux d'une prostituée qui, elle, est très gourmande et avec laquelle il va échanger sexe contre bouffe. Mais un beau jour, il va se retrouver dans une cellule d'une prison. Dans la prison, il va apprendre à s'en servir de ses dons culinaires, justement, pour grimper au sens propre comme au sens figuré, pour grimper de lit, mais pour grimper aussi dans le pouvoir de la prison. Parce que dans la vie, c'est comme ça, n'est-ce pas? Il y a ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. La bouffe, hein, c'est ce que compte le plus dans la vie pour certains, n'est-ce pas? On écoute.
Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida. Comida e bebida. Comida é terra, Deus a terra, dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois, com comida sólida, ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar aos mortais. Agora soma pra multiplicar bebida que o filho de Semer trouxe de vinho do fruto molhado da vinha. Embebedando os mortais e liquidando os seus ais, trazendo o sonho, o apagamento dos endividamentos de cada dia. Um Deus que aos deuses se dá, um Deus que se põe ao dispor. Não há melhor drogaria pra dor. A ele que se deve o que se dá e se recebe, o bem que se tem e que se detém. Um Messias que se bebe. Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida. Comida e bebida. Comida é terra, Deus a terra, dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida só, ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar aos mortais. Agora só cama pra multiplicar bebida que o filho de Semer trouxe de vinho do fruto molhado da vinha. Embebedando os mortais e liquidando os seus cais, trazendo o sonho, o apagamento dos endividamentos de cada dia. Um Deus que aos deuses se dá, um Deus que se põe ao dispor. Não há melhor trocaria da dor. A ele que se deve, o que se dá e se recebe, o bem que se tem e que se detém. O Messias que se bebe. Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida. Terra tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida só, ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar aos mortais. De mamar aos mortais.
Avec toutes ces références à la culture italienne, est-ce que tu es d'origine italienne aussi? Non, je ne suis pas d'origine italienne. Ma relation avec l'Italie a commencé de manière circonstancielle. À 17 ans, j'ai obtenu une bourse pour étudier pendant un an en Europe. Et le pays qu'on m'a proposé, c'était l'Italie. J'aimais l'Europe, la culture classique et le cinéma italien. Je suis partie donc vivre en Italie. Mais j'ai habité aussi un peu à Paris, un peu à Londres. Mais j'ai surtout passé beaucoup de temps en Italie. Je ne suis pas d'origine italienne, mais je me sens un peu italien parce que j'ai passé quand même 10 ans de ma jeunesse en Italie. Et cela a été fondamental pour moi. Le thème musical sifflé du héros est un hommage à Ennio Morricone, non ? Sans doute, c'est un hommage à tout un cinéma, le cinéma italien des années 60, la comédie italienne qui était capable, et je trouve ça admirable, de parler des choses sérieuses, philosophiques ou sociologiques, en faisant en sorte que les gens risent, se divertissent et réfléchissent après. Donc, j'ai voulu rendre un hommage à ce cinéma-là et j'ai choisi effectivement un des grands compositeurs de cette période qui est Ennio Morricone. Les sonorités, surtout la musique sifflée dans le film, est en rapport, bien sûr, avec Ennio Morricone et avec Sergio Leone, oui, parce que la musique sifflée est une caractéristique des films de Leone.
J'ai connu personnellement Sergio Leone, c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc, quand j'ai discuté avec les compositeurs de la musique de mon film sur la bande-son, sur quelle musique on allait mettre, on a pensé à ça et on a décidé que la musique sifflée serait le symbole de Nonato, le personnage principal. Dans le film, cette musique dialogue en permanence avec les images. Le sifflement apparaît au début du film et au fur et à mesure que la tension grandit dans le film, le sifflement devient de plus en plus aigu jusqu'à la fin, presque insupportable.
Sarapatel, feijão de coco, guaraná, açaí, tucupi, tacacá, enchendo o prato do Brasil até cansar. Na barriga de quem come sempre cabe um pouco mais, no olho grande de quem tem fome sobra raiva há muito tempo. Recessão, arrastão, turbilhão e quem sabe algum dia ilusão, esperança, explosão, por que não? Chama o Brasil, vamos pra mesa. O que é que há? Esse país merece um vatapá. Vatapá, caruru, munguzá, sarapatel, feijão de coco, guaraná, açaí, tucupi, tacacá, enchendo o prato do Brasil até cansar.
Alors, c'était d'abord comida et bebida, nourriture et boisson. Très belle interprétation de Elsa Soares pour une composition de Zé Miguel Wisnik. Et on a écouté aussi la première partie de l'interview avec Marcus Georges, réalisateur de Estômago, qui est actuellement à l'affiche à Montpellier. Où il est question, bien sûr, de ses références dans son film par rapport au cinéma italien, qui sont nombreuses dans ce film, Estômago. Si vous avez l'occasion, vous allez remarquer ça. Et en dernier, on a écouté Vatapa, Vatapa par Joyce, une évocation au célèbre morceau de Dorival Caymmi de Baïa, qui chantait, lui, déjà la recette complète de ce plat, vatapa, qui est le plat le plus typique de Bahia au Brésil. Comme vous voyez, la musique brésilienne est truffée, elle aussi, des références à la nourriture. Et c'est justement un répertoire culinaire qui accompagne ce soir l'interview de Marcus Georges pour aller avec son film. Alors, un petit mot sur Marc Georges. Je vous rappelle qu'il Il est un réalisateur indépendant dans le milieu cinématographique brésilien, qu'il a une longue expérience en Italie, dont les références sur le cinéma italien. Et donc, c'est aussi un passionné des cuisines, il nous a dit, et la cuisine est le sujet central de son film Estômago. La cuisine, surtout comme une sorte d'arme pour atteindre le pouvoir. Alors, Estômago est le premier long métrage de ce réalisateur brésilien. Et on va écouter la deuxième partie de l'interview avec de la musique avant et après.
Ganhou de prêmio num programa de televisão. Uma passagem pra comer pelo Brasil, tudo de graça.
Chorou de apetite, fingindo que era emoção. Seus amigos sempre lhe falaram em pratos típicos.
Desmaiou e foi levado para o camarim. Que era apendicite, outros diziam que era rim.
Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água.
E o comilão foi acordado pela produção, com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão.
Comeu esfomeado, desfalcando a exportação. Comeu esfomeado, desfalcando a exportação.
Outros diziam que era rim.
Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água. Ninguém desconfiava que a sua boca estava cheia d'água.
E o comilão foi acordado pela produção, com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão.
Comeu esfomeado, desfalcando a exportação. Comeu esfomeado, desfalcando a exportação.
Stomag é um filme produzido fora do...
Stomag est un film fait hors de l'axe Rio-São Paulo. C'est une tendance au Brésil, avec aussi le pôle du Nord-Est, cinéma Aspirine et Vautour.
Beaucoup Bahia, né? Cinema Aspirine e Urubu.
Essa é uma questão. Na verdade, sempre houve isso, né? Sempre. Não só os cineastas do eixo.
En réalité, ça a toujours existé. Les cinéastes de l'axe faisaient aussi des films ailleurs. Les contraires aussi a existé. On a, par exemple, Vida Secas, Glauber Rocha. Au Brésil, on a tendance à dire que les choses viennent du nord ou du sud. Mais je pense qu'on est le mélange de tout ça. Estômago, j'ai tourné à São Paulo et à Curitiba, mais c'est une fable. Elle ne révèle pas. Pas où ça se passe le film. C'est une ville du sud du Brésil et le personnage principal, Nonato, est un migrant du Nord-Est qui souffre des préjugés contre les gens du Nord-Est. Peu importe d'où il vient, s'il vient de Ceará, des Paraíbas, des Bahia. Mais il existe une envie de faire du cinéma au Brésil et pas seulement dans ce axe Rio-São Paulo. Mais pour certaines choses, on dépend de ces villes. Par exemple, les labos sont tous à São Paulo, les meilleures équipes sont à São Paulo. D'un autre côté, les histoires peuvent se passer partout. Mon prochain film, par exemple, se passe à Rio. En fait, je me sens un réalisateur brésilien qui fait le cinéma où se trouve son histoire. Cette histoire de Stomago ne se passe pas dans une ville propre. Mais comme j'avais mon équipe à Curitiba et que j'habite à Curitiba et que j'ai eu aussi la prison à ma disposition pour le tournage, c'était tout à fait naturel de travailler à Curitiba. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire du cinéma partout au Brésil.
Pelo que eu sei,
la production de cinéma national au Brésil augmente progressivement et le nombre de salles augmente aussi, mais la part des films brésiliens vus par les Brésiliens est encore petite par rapport au cinéma européen, par exemple. Qu'est-ce que peut être fait, à ton avis, pour équilibrer ça?
Melhorar isso?
É um assunto tão complexo isso que você está falando, porque são muitas as variáveis, né? No Brasil, a gente tem ainda sofre com um certo preconceito do público em relação ao cinema brasileiro, que está acabando.
C'est un sujet très complexe, il y a beaucoup de variables. Au Brésil, il existait un préjugé contre le cinéma brésilien, mais je pense qu'il est en train de disparaître avec les nouvelles générations. Avant, le cinéma brésilien était associé à la porno-chanchade, un cinéma vulgaire et mal fait, malgré qu'il existait des porno-chanchades bien réalisées. Il existe encore un préjugé aujourd'hui, mais qui diminue. Les gens assistent à des films brésiliens, même si souvent c'est la comédie du moment, bien réalisée techniquement. Donc ce que se passe au Brésil comme partout ailleurs, et la France est peut-être une exception, est la domination du cinéma américain. La majorité des salles passent des films américains avec un gros budget de divulgation aussi. L'espace consacré au cinéma brésilien, comme au cinéma européen d'ailleurs, est restreint. Aujourd'hui, on voit moins des films européens au Brésil qu'on voyait il y a 30 ans. C'est très complexe la question. On devait garantir un quota au cinéma brésilien, comme d'ailleurs en France, la France qui finance le cinéma français grâce au cinéma étranger. C'est le choix d'un pays souverain. Ça pourrait marcher au Brésil, mais c'est un argument qui ne rencontre pas de force politique. Il existe un quota, bien sûr, mais il est insuffisant pour le cinéma brésilien. D'un autre côté, le cinéma brésilien est en train de trouver son propre espace. Aujourd'hui, le problème est de savoir comment faire connaître le film et savoir qu'il est bien. Et ça veut dire investir en publicité, parce qu'il y a trop de choses à voir et les gens vont voir ce qu'elles ont entendu parler toute la journée. Donc, mis à part la question artistique d'un film, reste une question fondamentale qui est la question du marketing.
Comment faire la personne savoir que le film existe et que ce film est bon? Hoje, lançar un film significa investir necessairement en propaganda. Né? Porque tem tanto filme para ver, as pessoas vão ver aquilo que elas ouvem o dia inteiro. Então, né? A parte da questão do 3D, do espetáculo, etc., tem uma questão fundamental que...
Marketing.
Exatamente.
Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar. Terezinha mandou... jantar.
É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá.
A pinga vem do alambique, Valdomiro foi buscar. Terezinha na cozinha, o peixe com coco tem bom paladar.
É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá.
Antes do peixe tem tiragosto, tem sardinha, tem ostra e atum. Tem manjuba, bichilhão, marisco, tem agulha frita, siriguaiam.
É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá.
Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar.
Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar um jantar.
D'abord, Où Comilin, le gourmand, par Erasmo Carlos et Georges Benjor. Une musique très drôle sur la gourmandise qui peut donner de l'indigestion. La deuxième partie de l'interview, c'était juste après. L'interview que je vous rappelle avec Marc Georges, réalisateur brésilien de Estômago, où on a parlé de la décentralisation du cinéma brésilien qui se passe depuis un certain temps au Brésil. Donc des pôles de cinéma un peu dans le nord et dans le sud. Et puis on a parlé du besoin d'une meilleure diffusion du cinéma brésilien. Et on a écouté à la fin « Peixe com coco », »,« Poisson à la noix de coco », qui est une manière, je vous assure, très savoureuse de préparer un poisson. Et c'était chanté par la grande Clara Nunes. Alors, un petit peu plus sur le film Estômago. Donc, Estômago est un film qui a bien marché au Brésil, il nous dit dans l'interview, et qui connaît aussi, petit à petit, quand même, du succès en Europe. Et aussi un peu partout dans le monde. Les films ont le mérite de sortir des clichés sur le Brésil, qui sont par exemple la violence, les favelas, etc. Et parce que c'est en fait une comédie qui traite bien sûr du pouvoir et de la nourriture, donc qui évoque en fin de compte la question de la survie. Dans certaines situations, si tu ne dévores pas, bien sûr, tu es forcément dévoré. Alors, plusieurs réalisateurs ont parlé des nourritures au cinéma avant Marc Georges, mais jamais avec cette combinaison que je pense est unique, cuisine, pouvoir, sexe, prison, préjugés, Brésil. Et on continue avec la troisième partie de l'interview et de la musique.
Como tanto aprendi com a minha avó, Na minha casa só se come em prato fundo, eu adoro.
Se como tanto, aprendi com a minha avó.
Na minha casa só se come em prato fundo, eu adoro. A minha mana, para esperar o almoço, come casca de banana, depois engole o caroço. E o meu titio faz vergonha todo instante, foi ao circo com fastio e engoliu o elefante.
Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo, eu adoro. Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo, eu adoro.
A minha tia já engoliu uma fruteira, estou vendo ainda o dia que ela almoça a cozinheira. E depois disso leva sempre a dar palpite, toma chumbo derretido para abrir o apetite.
Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo, eu adoro. Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo, eu adoro.
Meu bisavô, que era um índio botocudo, devorou a tribo inteira com pajé, cacique e tudo. E a minha avó, que comia portuguesa, reduziu dois bois a pó e ainda quis a sobremesa.
La mentalité.
Il y a la question de la mentalité aussi autour du cinéma. Hier soir, par exemple, ils ont passé un documentaire sur le cinéma brésilien à la télévision française. Et il y avait une réalisatrice brésilienne qui racontait que quand son film est sorti, elle a été au cinéma pour tester. Et quand elle a demandé une entrée pour son film, la caissière a dit « Mais vous êtes sûre de vouloir aller voir ce film ? C'est un film national, on ne rembourse pas les entrées. » Oui, l'étiquette cinéma national est déjà le résultat de ce préjugé. Elle ne devait pas exister. Il devait exister juste l'étiquette comédie, drame, documentaire, cinéma national est une étiquette problématique. Mais elle existe aussi par influence européenne, cette histoire de cinéma d'auteur, etc. Le simple fait qu'il existe une étiquette cinéma national pour le cinéma brésilien est un problème. Estômago devait être classé en comédie, comme Cidade de Deus devait être classé en drame. Mais ce préjugé diminue quand même. Si les gens savent qu'il y a un film brésilien avec, par exemple, des acteurs qu'ils connaissent de la télévision, ils vont le voir. Les films avec beaucoup de promotion deviennent un phénomène au Brésil aussi. Les gens vont voir et ils adorent.
As pessoas não foram ver. E gostaram e adoraram.
Pois é, mas você estava falando do cinema francês...
Justement, tu parlais de l'exception française, mais ici aussi, les petits films, les cinémas d'auteur, est très peu vu aussi. Ce qui se passe, comme l'année dernière, par exemple, où la part des films français vus par le public français a atteint des records, c'était grâce à un seul film, Bienvenue chez les Ch'tis. E foi peut-être ça au Brésil.
Talvez isso precise também no Brasil.
A gente está tendo isso, né? Tem o Chico Xavier agora, que tem o nome é Johnny.
Mas on a ça déjà au cinéma brésilien. On a, par exemple, cette année, Chico Xavier, en ce moment, on a eu Mon nom n'est pas Johnny, Si j'étais toi, les deux. Donc, tu as raison. Mais il faut considérer le public réel d'un film. Au Nord-Est, par exemple, les films pirates vendus sur les plages, c'est choquant. Les gens achètent ces films et les regardent chez eux et ils ne vont pas au cinéma. Le problème est aussi le prix des places de cinéma au Brésil qui coûtent très cher. Et les petites salles de cinéma disparaissent, les salles sont dans des multiplexes, elles ont la pression des grands distributeurs. Pour résumer, un bon film avec une bonne opération autour fonctionne. Les gens sont allés voir Estômago au Brésil. Ça n'a pas été une grosse billetterie parce que c'était un petit film, mais le nombre de personnes qui ont vu le film par copie au cinéma est une des plus grandes du cinéma brésilien. On a donc besoin de faire des films qui plaisent aux gens, qui dialoguent avec le public, et aussi d'investir dans la promotion de nos films. C'est une équation économique et pour cela, on devait avoir plus d'investissements réels dans la promotion. On débute encore. On a augmenté la production, mais la distribution ne fonctionne pas comme elle devait l'être. Les gains réels d'un film ne sont plus en fonction de la billetterie. Aujourd'hui, ils vont plus vers les distributeurs que les producteurs. Mais le fait est qu'on améliore la relation du cinéma avec le public, avec ses films populaires, et chaque film est vu comme un film. On ne va pas avoir un film parce que c'est un film brésilien. De la même manière qu'on ne va pas voir un film parce que c'est un film américain. Il existe encore des préjugés, bien sûr. Par exemple, il existe un préjugé contre le cinéma français au Brésil. Il est considéré, d'une manière générale, comme un cinéma ennuyeux, difficile, alors que chaque film est un film. Tous les films de la nouvelle vague n'étaient pas des films difficiles. Pour revenir au cinéma brésilien, des faits historiques ont fait que le cinéma brésilien a été mis dans la perspective du public. Mais aujourd'hui, cela est en train de changer. Il y a encore peu d'initiatives, car les opérations pour amener 5 millions de personnes à assister à un film coûtent cher. Il faut faire une grosse promotion derrière. Le cinéma est aussi un business. Mais Estômago a été vu par pas mal de gens au Brésil et maintenant il va passer à la télévision. C'est un film qu'en fin de vie, il sera vu par 30 millions de personnes au Brésil. Et puis il a été vendu à plus de 20 pays et son public à l'étranger est supérieur au public brésilien. Rien qu'en Belgique, on a fait presque le même nombre d'entrées qu'au Brésil. En France, il est sorti avec 15 copies, pareil qu'au Brésil. Et en Espagne, il est sorti avec 40 copies. C'est un film qui a une équation qui n'est pas courante pour un film brésilien qui généralement vend peu à l'étranger parce que peut-être trop centré sur notre culture. Donc c'est un cinéma qui manque un peu plus de dialogue avec l'universalité.
Falta un peu de dialogue aussi avec l'universalité du cinéma.
Lá na casa do Vavá teve um tremendo pagode que você não pode imaginar. Mas no domingo,
domingo, lá na casa do Vavá teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem anda a portela é que sabe que a coisa é divina.
Provei do famoso feijão da Vicentina.
Tinha gente de todo lugar
no pacote do Vavá.
Tinha gente de todo lugar
no pacote do Vavá.
Nego tirava o sapato, ficava à vontade, comia com a mão. Uma batida gostosa que tinha o nome de doce ilusão.
Vi muita nega bonita fazer parte inteiro ficar esquecido. Mas apesar do ciúme, nenhuma mulher ficou sem o marido.
Mas no domingo, domingo, lá na casa do Vavá teve um tremendo pagode que você não pode imaginar. Mas no domingo,
domingo, lá na casa do Vavá teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Provei do famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
tinha gente de todo lugar.
O pagode do babá.
Tinha gente de todo lugar.
O pagode do babá.
Um assovio de bala cortou o espaço e ninguém machucou. Muito malandro corria quando o Elton Medeiros chegou.
Minha gente, não fique apressada, que não há motivo pra ter correria. Foi um nego que fez 13 pontos e ficou maluco de tanta alegria.
Mas no domingo, domingo, lá na casa do papai, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar. Mas no domingo,
domingo, lá na casa do papai, teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Feito o famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
Proveito o famoso feijão da Vicentina. Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina.
Tinha gente de todo lugar.
O pagode do babá.
Tinha gente de todo lugar.
O pagode do babá.
Tinha gente de todo lugar.
O pagode do babá.
Tinha gente de todo lugar, o pagode do babá. Tinha gente de todo lugar, o pagode do babá.
Alors, on a écouté Prato Fundo. Prato Fundo, c'est une assiette creuse et qui est une marchinha de carnaval qui évoque les familles des bonnes fourchettes, où l'assiette plate est littéralement bannie de la cuisine. On a écouté aussi la troisième partie de l'interview avec Marc Georges, où nous avons parlé cette fois-ci de la difficulté de faire en sorte que les Brésiliens donnent plus de valeur au cinéma brésilien. Et on a écouté en dernier Paulinho da Viola, qui nous décrivait dans son morceau Pagode do Vavá, un dimanche bien arrosé, un de ces jours où on mange une délicieuse feijoada, le plat préféré des Brésiliens, et on boit de la bière au son d'un bon pagode. Alors, dans le film Estômago, comme signale bien le réalisateur dans l'interview, les questions sociales sont placées, disons, de manière subtile en toile de fond, parce que pour Marc Georges, parler de ces questions par le biais de la comédie, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen de faire en sorte que les gens réfléchissent avec du recul une fois qu'ils sont partis du film. Donc, ce n'est pas banaliser les sujets sociaux, mais au contraire, permettre que les gens réfléchissent mieux, en fait. En fin de compte, il est plus facile de réfléchir avec le ventre plein qu'avec le ventre vide, non ? Voilà, on continue avec musique et interview.
Pichadão da obra, bateu 11 horas. Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
O enxadão da obra, bateu 11 horas. Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
Que é que você trouxe na marmita, dito?
Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito.
E você, beleza, o que é que você trouxe?
Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Tereza. O enxadão da obra bateu um senhor.
Vamos embora, senhor.
Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
O enxadão da obra bateu 11 horas. Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
Vamos embora, João.
O que é que você trouxe na marmita, dito?
Trouxe ovo frito. Trouxe ovo frito, é.
E você, beleza, o que é que você trouxe?
Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Tereza.
Vamos almoçar sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Depois puxar uma paia,
andar um pouco pra fazer o que ele é. Dureza, João, é dureza, João,
é dureza, João,
é dureza, João,
é dureza,
é dureza, João,
é dureza, João,
é dureza, João,
é dureza, João.
O mestre falou que hoje não tem vale, não. Ele se esqueceu que lá em casa não sou, sou eu.
Se segura, Maria.
O mestre falou que hoje não tem vale, não. Ele se esqueceu que lá em casa não sou, sou eu.
Se segura, Maria.
O mestre falou que hoje não tem vale, não.
Só pra ele que tem, né?
Ele se esqueceu que lá em casa não sou, sou
se
eu.
Se segura, Maria.
Il y a un film français récent qui a eu beaucoup de prix aussi, Un prophète de Jacques Audiard. Tu l'as vu? Oui. Il traite aussi du pouvoir dans une prison. Exact. C'est intéressant le parallèle. C'est un grand film. Hier, on m'a posé cette question aussi. J'ai fait Stomago avant Le prophète. Et donc, je n'ai pas été influencé par le prophète. Ce n'est pas une question d'influence. C'est une coïncidence, bien sûr, mais dans le film d'Audiard et la prison, en tout cas, il paraît clair que la question sociale et la question de l'immigration, elle est en premier plan, comme la question du pouvoir aussi. Tandis que dans ton film, non. Ce que je focalise dans mon film est différent du prophète. Je parle de pouvoir, mais aussi d'un personnage. Et il ne se passe pas que dans une prison. En plus, mon film est une comédie, parce que je voulus faire un film pour que les gens puissent rire. J'aime provoquer les spectateurs pour qu'ils se moquent de lui-même. Faire rire est plus difficile que de faire pleurer. Pour faire pleurer, il faut une situation triste et une musique qui va avec. Et les gens pleurent. Faire rire, c'est facile si on montre quelqu'un qui glisse sur une peau de banane. Tout le monde rit. Difficile, c'est faire rire des choses intelligentes. Mon film fait rire, mais il donne aussi une certaine indigestion à la fin. La relation concrète entre le prophète et Estomago est que le microcosmos de la prison est un lieu excellent pour montrer les relations humaines. C'est comme des rats, des laboratoires, dans un petit espace. La relation entre eux devient trop intense au bout d'un certain temps. Avec les hommes, c'est pareil. Dans les prisons, mais aussi dans les cuisines, qui sont des espaces restreints, cela se passe aussi. Dans mon film, il y a aussi des conflits qui n'ont pas été trop développés entre les cuisiniers. Autre chose, Estomago n'est pas un film paternaliste. Il n'y a pas de vrais héros ni des vrais vilains. Les héros n'est pas un vrai héros. Il n'y a pas de jugement moral sur le personnage. Le héros n'est pas un pauvre type non plus qui a fait des conneries par la pression sociale ou parce qu'il a souffert dans son enfance. J'essaie de faire en sorte que le public voit les choses à partir du point de vue du personnage. C'est lui le narrateur et le public le soutient. Le public est de son côté. Il est surpris, bien sûr, à la fin, mais il se sent encore du côté du personnage parce qu'il est sympathique. Je ne suis pas paternaliste. Chaque personnage du film a un côté sympathique, un côté positif, un côté séducteur, comme les protagonistes. Il y a aussi la protagoniste qui est séductrice, mais qui fait quelque chose de peu éthique. De la même manière, Nonat, le personnage principal, et les autres personnages aussi. Le seul personnage qui paraissait complètement antipathique, c'est l'ancien patron. Mais vers la fin du film, il devient coopératif quand Nonat l'invite pour être témoin de ses fiançailles. J'ai réussi à récupérer l'humanité de ce personnage. Il n'est pas un type mauvais. C'est un pauvre type aussi. Le cinéma brésilien a une tendance à être paternaliste avec ses personnages parce que au Brésil, le cinéma est un art d'élite, fait par l'élite. Les réalisateurs sont d'élite en général et les publics aussi, c'est l'élite en général. Le pauvre n'a pas d'argent pour aller au cinéma, en tout cas. Donc, c'est l'élite qui va au cinéma et c'est l'élite qui a ce sentiment de culpabilité par rapport à la situation économique, par rapport à l'exploitation sociale. Dans ce film, j'essaie de ne pas être paternaliste ni politiquement correcte. Les personnages me donnaient des ordres et je ne savais pas comment finir l'histoire parce que justement les personnages me disaient « non, pas comme ça ». Comme si le personnage avait leur propre vie. En fait, c'est très émotionnant de faire un film comme ça. Les personnages sont comme des enfants qu'on a créés et on permet que ce personnage existe par eux propres, mais aussi pour les autres.
Parce que vous créez, né, comme si fossem teus filhos, assim, depois de repente você faz com que eles existam para as outras pessoas também, né? Muito lindo isso.
Alô, pessoal do Rato Malhado. Aí vamos partindo de malandro. Esse feijão tá cheiroso, foi Dona Neném quem mandou preparar. Disse que penha, lhe disse que o fogo de lenha tem bom paladar. Vamos lá, bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar. Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão queimar. Entre a carne e o tira-gosto, era mês de agosto, lembro muito bem. Fui na favela do rato como convidado de Dona Neném. Estranhei o movimento, mas pensei por dentro, vai dar tudo bem. Mas tropecei no tijolo, esbarrei no crioulo que caiu também. Cheio de fome o negão lá no chão, esperando o feijão da neném. Vamos lá.
Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar.
E outra vez pra firmar.
Bota a lenha na fogueira, neném, não deixa o feijão queimar.
O negão queria briga, porém a fadiga não deu condição. Vi que era malandragem, era pilantragem, era tudo armação. Pediram uma ajuda, me deram a bermuda, a enxada e o carrinho de mão. Onde se lia a mensagem? Primeiro a laje, depois o feijão. Outra vez.
Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar.
Vamos lá.
Bota a lenha na fogueira, neném, não deixa o feijão queimar.
Esse feijão tá cheiroso.
Foi Dona Neném que mandou preparar.
Disse que tem ali, disse que o fogo de lenha tá bom paladar. Mês de agosto, lembro muito bem. Fui na favela do rato como convidado de Dona Neném. Estranhei o movimento, mas pensei que o tempo vai dar tudo bem. Mas tropecei no tijolo, esbarrei no crioulo que caiu também. Cheio de fome, negão lá no chão, esperando o feijão da neném. Vamos lá.
Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar.
Pra firmar.
Bota a lenha na fogueira, neném, não deixa o feijão queimar.
A briga, porém a fadiga não deu condição. Vi que era malandragem, era pilantragem, era tudo armação. Pediram uma ajuda, me deram a bermuda, a pá, enxada e o carrinho de mão. Onde se lia a mensagem? Primeiro a laje, depois o feijão. Vamos então.
Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar.
Vamos lá.
Bota a lenha na fogueira, neném, não deixa o feijão queimar. Bota a lenha na fogueira, neném, deixa o feijão cozinhar. Bota a lenha na fogueira, neném, não deixa o feijão queimar. Bota a lenha na fogueira, neném.
Vamos fazer a laje aí. Já tá saindo o prato. Cadê a cor, menino?
Voilà, on a écouté d'abord Torresmo à Milanaise, des rillons à Milanaise. Je vous assure qu'il y a une recette de ça.
une rareté musicale. Vous avez certainement entendu le claquement, puisque c'est Clementina di Jesus et Adoniran Barbosa qui chantaient ensemble. Et dans cette musique, il était question des ouvriers du bâtiment qui, dans la pause du repas de midi, questionnent les uns aux autres « Qu'est-ce que vous avez apporté dans votre marmite pour le repas ?» Alors, c'est très beau, ce morceau, très drôle. Donc, on a entendu après la quatrième partie de l'interview avec Marc Georges, que nous avons fait avec ce réalisateur lundi à Montpellier. Et dans cette partie, il est question d'un parallèle entre Estombe et Le Prophète de Jacques Audiard. Alors pourquoi ? Parce que tous les deux films traitent du pouvoir dans la prison. Mais il faut dire que Estombe, d'abord, est antérieur au film d'Audiard, Le Prophète, puisqu'il est sorti au Brésil en 2007. Que Estombe est une comédie et que les questions sociales dans Estombe ne sont pas posées de la même manière. Et donc, ça, c'était pour l'interview. Et un dernier, on a écouté Zeca Pagodinho, le grand chanteur de samba de Rio, qui nous vantait lui aussi les haricots, encore les haricots, plat préféré des Brésiliens. D'ailleurs, dans Estômago, il y a une scène d'un repas gastronomique à l'intérieur de la prison où il faut quand même que les haricots, alors après ce repas gastronomique, il faut quand même que les haricots soient servis. Il faut dire que les Brésiliens ne peuvent pas manger sans haricots. Mais bon, on peut se demander aussi que serait-il des haricots, puisqu'il y a beaucoup de sauce dans les haricots à la mode brésilienne. Donc, que serait-il des haricots s'il n'existait pas la farine de manioc ? La farine de manioc qui est la nourriture des pauvres, la nourriture du Nord-Est, comme le chante bien Djavan.
Farinha feita de uma planta da família das euforbiáceas, euforbiáceas. De nome maniote utilíssima, que um dia o meu apelidou de macaxeira. E foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá. E em tudo que é farinha da macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Ui, ui. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. De uma planta da família das euforbiáceas, euforbiáceas. De nome maniote utilíssima, que um tio meu apelidou de macaxeira. E foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O
cabra que não tem eira nem pera. Lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá. E em tudo que é farinhada, macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa. Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa. Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa. Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa. Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas.
En plus du personnage de Nonato, il y a un autre gars du Nord-Est, et que nous connaissons tous, qui a réussi une ascension sociale et qui a tenté une ascension culturelle, mais que jusqu'à aujourd'hui est traité d'inculte. C'est Lula. Est-ce que l'ascension sociale au Brésil est possible, mais la culturelle impossible? On a tellement de préjugés qu'on accepte pas ça.
Que a gente não aceita.
Você tem uma ideia, o filme ele é tão
Ce film est très ouvert en matière de moralité. La question du préjugé est clairement exprimée dans le film. On traite Nonato des Paraíba, des Ceará, des Baianos, et quand il rentre en prison, il est victime des préjugés contre le blanc. Il est traité de Parmalate, qui est comme on traite les blancs à Bahia. Un noir quand il veut faire du mal à un blanc. J'avais peur que les gens ne comprennent pas cette question du préjugé. Les personnages ont du préjugé. Parfois, on confond la position du réalisateur avec celle des personnages. En réalité, ce sont les personnages qui ont des préjugés, parce que le pays a des préjugés, surtout avec les gens du Nord-Est qui arrivent dans le Sud. Ils sont tous traités des baianos, n'importe d'où ils viennent.
No Rio, ele é Paraíba.
Même quand le type en question devient président de la République, il est traité d'un culte.
Ao mesmo tempo, tem outras coisas no filme que jogam muito com preconceito, na verdade. Porque o preconceito é um dos temas do filme. Só que não é um tema.
Même comme ça, en même temps, dans le film, le préjugé n'est pas un thème explicite. Les gens ont compris ça. Sauf un critique du Nord-Est qui a compris que le héros Nonato était stupide. En réalité, Nonato n'est pas stupide. Il est naïf, il paraît naïf. Il est inculte, ignorant, il ne connaît pas le vin, il dit des choses drôles, mais il est tout sauf stupide. Il est intelligent et il arrive à avoir une ascension sociale. Quand j'ai écrit les films, j'ai pensé, après, à la ressemblance avec Lula. Mais je n'avais pas pensé à ça avant. Lula est le symbole du Brésil. Dans ce sens, c'est une coïncidence. J'admire beaucoup l'ascension de Lula et son histoire personnelle. Et cela ne m'avait pas influencé pendant que j'écrivais le film. Quand j'ai terminé, j'ai pensé qu'il y avait effectivement une ressemblance. Mais il y a beaucoup de gens du Nord-Est qui réussissent dans le Sud. En cuisine, il y a beaucoup de chefs dans les restaurants du Sud qui sont du Nord-Est. Et bien sûr, il y a aussi des préjugés. Mais moi aussi, je viens d'une famille pauvre. Mon père était chauffeur de camion, ma mère était couturière. J'ai connu moi aussi une ascension sociale. Quand j'ai reçu le prix au Brésil, l'équivalent des Césars, j'ai remercié ma mère parce que, avec sa machine à coudre, elle a permis mon ascension sociale par la culture, par l'étude. Moi aussi, j'ai souffert d'un préjugé subtil. Parce que je suis blanc avec une tête d'Européen. Mais je ne fais pas partie des cercles du pouvoir du cinéma brésilien. Je suis un outsider. L'année dernière, quand j'ai reçu un prix, j'ai été un inconnu encore, venu de nulle part, débarqué de Curitiba et qui a réussi les films de l'année. Mais j'ai senti de la sympathie quand même de la part des gens. Et j'ai senti en même temps des préjugés. Parce que je ne faisais pas partie des grands circuits. Mais c'est drôle que vous posiez cette question. Personne n'avait relationné mon personnage avant avec Lula. C'est la première fois. Et je m'attendais à ça depuis longtemps. Sans savoir si c'était bien ou pas, mais cette ressemblance, elle existe.
Ninguém relacionou o Nonato a Lula nunca, a primeira vez. E para mim era uma coisa que lá atrás, quando eu vi o filme, eu pensei, alguém vai falar isso. E eu não sei nem se era bom ou ruim, então, porque não era o pensamento.
É difícil não pensar.
É difícil de não pensar a Lula quando il s'agit d'ascension sociale. Quand on voit Lula, au bout de deux mandats, être encore traité d'un culte et de rustre, on ne peut que se poser cette question, non? Est-ce que notre préjugé est si fort que même si le président Lula décidait de faire un doctorat, on allait continuer à le traiter d'un culte? C'est très compliqué, l'ascension sociale et économique. Elle est plus facile, mais l'ascension culturelle paraît plus difficile.
Le
comédien noir Grand Hotel disait quand un noir au Brésil devient riche, il devient aussi blanc. Le préjugé au Brésil est subtil, particulier, lié à notre histoire, à notre métissage aussi, mais il est fort. À Bahia, c'est frappant, autant il y a du mélange qu'il y a du préjugé. En réalité, les préjugés, c'est presque notre réaction normale d'être humain. C'est l'effet de la paresse de connaître l'autre. En général, quand tu connais l'autre, le préjugé disparaît ou en tout cas diminue. Mais le préjugé est un des thèmes de mon film. On dit dans le film qu'un cuisinier ne doit pas avoir des préjugés avec la nourriture. Un cuisinier, même s'il n'aime pas, il doit goûter à tout. Les préjugés est un rapport avec le pouvoir aussi. Mais dans le cas de Lula, il est au-dessus de ça. Il a une telle génialité que même quand il dit des choses parfois bizarres, il y a de la génialité dans ce qu'il dit. Mais il est vrai qu'il a affronté aussi des préjugés. Mais je pense qu'il les supporte bien, comme Nonato, le personnage du film d'ailleurs. Il ne se sent pas offensé, il fait à manger, et le reste, il dit, on verra après. Nonato est un autre symbole du Brésil, comme Lula, comme Macunaíma. C'était bien cette question. Nonato, en fait, est un culte, mais il est intelligent, comme Lula, il apprend. Dans la prison, il devient par son intelligence quelqu'un qui réussit à avoir du pouvoir aussi.
E isso que faz com que ele seja um self-made-man, né? Ele se vê na cadeia, ele tá virando um cara de poder, um cara de conceito.
Os boias frias, quando tomam espirita espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa é goiabada cascão com muito queijo. Depois, café, cigarro e um beijo de uma mulata chamada Leonor ou Dagmar. Amar. O rádio de pilha, um fogão, jacaré, a marmita ao domingo. Mentiras pra poder suportar. Ai, são pais de santo, paus de arara, são fascistas, são flagelados, são pingentes balconistas.
Deus. Os boias frias, quando tomam uma aspirita espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa.
Alors, on a écouté d'abord Farine, Farine de manioc, et c'était Javan qui nous chantait la farine de manioc qu'on appelle macaxeira au nord-est du Brésil. Donc, on a écouté ensuite la cinquième partie de l'interview avec le réalisateur Marcos Jorge. Et là, nous avons parlé, vous avez certainement compris, de Lula, le président de la République. Et il m'a dit que c'était la première fois qu'on faisait un parallèle entre son héros, le héros de son film, et le président de la République. Pourquoi ? Parce que, en fait, Lula vient aussi quelqu'un qui vient du Nord-Est, pauvre, et qui a réussi à avoir une ascension sociale dans le sud du Brésil. Et c'est un petit peu, il y a un petit parallèle avec son personnage Nonato, qui est un migrant du Nord-Est et qui a lui aussi, grâce à ses dons culinaires, connu une ascension sociale. Mais ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on a parlé de ça, c'est que Lula, le président de la République, est jusqu'à aujourd'hui traité d'inculte, traité de rustre au Brésil, par la presse, par la classe moyenne un petit peu aussi. Je voulais savoir de lui l'ascension sociale et économique était possible, mais l'ascension culturelle était si difficile, si on avait autant de préjugés que c'était, on n'acceptait pas ça. Et voilà, donc il m'a répondu ce que vous venez d'écouter. Et en dernière partie, on a écouté, puisqu'on commence à terminer l'interview là, on a écouté donc un morceau qui parle du dessert, le dessert, et c'était Elis Regina qui chantait, elle chantait o rancho da goiabada, le ranch de la pâte de goiave. Il faut savoir que la pâte de goiave est aussi le dessert le plus populaire au Brésil, on le mange avec un petit bout de fromage. Et d'ailleurs, pour préciser, ranch n'a pas la même connotation en portugais qu'en anglais, puisque ranch, c'est plutôt une maison de pauvres qu'une grosse ferme. Et donc, aussi la pâte de goyave est montrée dans le film Estômago de Marcos Jorge, sauf que là, il a inventé un dessert chic à partir de ce dessert goiabada fromage qui est en fait il a mis à la place du fromage qu'on le mange normalement, il a mis du gorgonzola, encore une référence au cinéma italien, à la culture italienne, et donc ça a donné un dessert chic dans un restaurant italien où travaille son héros. Et ces desserts là il l'a appelé Anita et Garibaldi, donc le fromage et la pâte de goyave ensemble. Anita Garibaldi, vous le connaissez certainement, c'est lui qui a réussi à unifier l'Italie. Et donc la femme de sa vie, Anita, était une brésilienne d'origine italienne, puisqu'elle est née dans l'état de Santa Catarina, et Garibaldi à un moment donné était recherché en Italie et il a pris la fuite, il est parti au Brésil, il a connu Anita Ils sont revenus en Italie où il a réussi finalement l'unification de l'Italie. Voilà, donc ce dessert a été appelé dans les films Anita et Garibaldi. Le réalisateur Marc Georges, pour résumer, puisque l'interview va bientôt terminer, il a adopté, à mon avis, les prémices d'un groupe de rock brésilien qui a existé dans les années 80, qui a commencé dans les années 80, et qui est devenu par la suite un groupe emblématique de cette époque-là, c'est-à-dire juste après, à la fin de la dictature. Et surtout d'un morceau, d'un de leurs morceaux le plus célèbre, qui s'appelle Comida, nourriture, qui dit les gens ne veulent pas que la nourriture, les gens veulent manger, mais aussi boire, aussi faire l'amour. Les gens veulent aussi de l'argent, ils veulent le bonheur, ils veulent pouvoir partir, pouvoir revenir, ils veulent nourriture, diversion et l'art. Donc Estômago reste, à mon avis, fidèle à ce principe de groupe Titans. On écoute la dernière partie et Titans.
Dans ton film, il y a la nourriture, la diversion et l'art. Et Paulo Miklos, rocker du groupe Titans. Est-ce que tu es un fan? Oui, j'y suis. Mais la présence de Paulo Miklos est aussi par rapport à un autre hommage que j'ai voulu rendre à un autre film brésilien, L'Invaseur, un film récent et important dans le cinéma brésilien de Beto Brandt. Et que j'aime bien. C'est le premier film où Paulo Miklos a travaillé et il joue le rôle d'un bandit, d'un personnage très chouette. En fait, il a une gueule de Brésilien et il fait très bien le bandit. Il est maigre, en général les grands bandits sont maigres, un peu comme moi d'ailleurs. Les gros sont toujours plus sympathiques. Paulo Miklos est maigre, il a un visage très marqué et une manière de montrer qu'il est puissant, un vrai caïd. Et moi, quand j'écrivais le film, j'ai pensé qu'il serait l'idéal pour le personnage du chef qui arrive en prison. Il a du talent, comme Nonat, et où qu'il soit, il arrivera à s'en sortir. Et c'est comme ça que je l'ai invité à jouer le personnage d'Etc. Mais en fait, je suis un fan des Titans aussi.
Thank you. precisa de quê?
De quê?
Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.
Alors, on a écouté Titans Comida et bien sûr, juste avant, la dernière partie de l'interview avec Marc Georges qui nous avouait qu'il était fan des Titans et où on a parlé aussi de l'acteur Paolo Miklos qui est dans ce film Estomago et qui est lui aussi un des rockers de ce groupe de rock des années 80, qui a débuté dans les années 80, Titans. Voilà, donc ça va être l'heure de se quitter et je vous rappelle d'abord donc, que ce film dont on a parlé toute la soirée, Estomago, vous pouvez aller le voir au Diagonale en ce moment à Montpellier. Et donc on va terminer, mais avant de terminer, je remercie à tous les auditeurs et à Gilles qui était là à la régie ce soir. Merci Gilles. Et donc, je vous propose de terminer par un très long morceau qui est en fait une chanson du Nord-Est, un peu comme les musiques du Repent, mais pas tout à fait, puisqu'il y a une partie parlée aussi. Et donc, c'est une chanson qui est un voyage à travers le Brésil, un voyage qui est chanté par Antonio Nóbrega. Et dans ce voyage, il va s'arrêter pour manger quelque part. Et là, vous allez avoir tous les menus de ce qu'on mange au Brésil. Voilà, merci à tous et bonsoir.
Nosso Brasil acompanha minha ideia. Foi Atlântida e Pangeia, um sertão que já foi mar. Já foi Rodinha, foi Panote e Gondwana. Era belo e bacana antes de Cabral chegar. Também foi Ilha do Brasil, de São Brandão, Vera Cruz, nome cristão, trazido de Alemar. Foi Pindorama, foi terra de Santa Cruz, Papagales, meu Jesus, depois de Cabral chegar. Nosso país tem tesouros, tem arcanos, tem mais de 30 mil anos de histórias pra contar. São 30 mil em que o índio teve vez, 500 que o português e o negro chegaram cá. Aí um dia eu sentado na cadeira, um estalo de vieira clareou a minha mente. Eu percebi que tinha de procurar, descobrir e encarar minha terra e minha gente. E sem demora minha burra eu selei, pus um cabresto e montei, pus espelho e um radar, pus uma bússola, astrolábio e luneta, diário, mapa e caneta, e falei, vou viajar. E mesmo antes do sol, do cantar do galo, do sino bater badalo, eu saí pelo caminho. Os cascos dela velozes batraqueavam, pareciam que estavam tocando brasileirinho. Cavalgar, cavalgar, eu cavalguei. No país dos brasileiros, conheci o mundo inteiro e por ele eu passei. Cavalgar, cavalgar, eu cavalguei. No país dos brasileiros, conheci o mundo inteiro e por ele eu passei. No meu galope mais veloz que um curisco, eu cruzei o São Francisco, mergulhei no Iguaçu. Fui despertar no sol da zona da mata, vestido de ouro e prata, sambando maracatu. Passei por todas as ladeiras de Olinda e muita morena linda ainda se lembra de mim. Andei seresta, tirei versos na ciranda, toquei tuba numa banda, na outra toquei flautim. No meu caminho enchi o Brasil de pernas, até chegar nas cavernas das grutas de Maquiné. Voltei de lá com um papiro na mão, trazendo a decifração dos segredos de Sumé. Eu vi xamãs dominando tempestades, cavando sete cidades, separando Marajó. Vi o profeta puxando com sua cruz cada órfão de Jesus que cruzou Cocorobó. Cavalgar, cavalgar, eu cavalguei. No país dos brasileiros, conheci o mundo inteiro e por ele eu passei. Cavalgar, cavalgar, eu cavalguei. No país dos brasileiros, conheci o mundo inteiro e por ele eu passei. Fiz um almoço lá no buraco da Gia, começou ao meio-dia, terminou pela manhã. Cuscuz com fava e bode assado, dobradinha, macaxeira com farinha, codorniz e ribaçã. Bolo de milho, marisco no vinagrete, feijoada com croquete, que tutti baião de dois. Comi de tudo, sem pressa, sem me cansar, só para me preparar para o que vinha depois. Arroz de polvo, risoto de camarão, maionese e macarrão, salpicão, frutos do mar. Feijão macaça, galinha de cabidela, um bife de panela e bem leve para descansar. Um ensopado de carne com batatinha, feijão verde, farofinha, sanduíche de peru. Para terminar, um conhaque e um cafezinho, mais um cálice de vinho e três doses de pitu. Cavalgar, cavalgar, eu cavalguei. No país dos brasileiros, conheci o mundo inteiro e por ele eu passei. Cavalgar, cavalgar, eu cavalguei. No país dos brasileiros, conheci o mundo inteiro e por ele eu passei. Porém, um dia eu cruzei o meu caminho com um cavalo marinho que era cheio com medo. Puxei a rédea, fiquei olhando pra ele, ele achou que eu era ele, eu achei que ele era eu. Nesse momento, mais um galope se ouviu, outro cavalo surgiu, passando perto da gente. Uma figura semelhante e parecida, mas como tudo na vida, tinha algo diferente. E mais dois outros chegaram no mesmo instante, e logo mais adiante, outro ainda apareceu. E eu que pensava que era o único no mundo, encontrei no só segundo muitos outros como eu. Saí puxando a cavalhada marinha, parecia ideia minha, parecia carnaval. Fomos dançando na ponte do arco-íris, e quando rodei o pires, apurei quase um real. dia e noite galopando esse país de metrópoles febris e esquecida imensidão. Vi a coragem de quem enfrentou a morte, vi um vento lá do norte, vi a vela em minha mão. Vi uma luz branca azul aparecida e uma mulher parecida com aquela lá do céu. Vi tantas luzes que lembrá-las a revê-las, tantas duas estrelas entre as rendas do seu véu. E da mão dela uma luz se projetava, e essa luz me apontava uma Troia no sertão. Uma muralha, dentro dela uma cidade, fora dela a crueldade, a morte e a escravidão. Era o quilombo lá da Serra dos Palmares, erguendo alto nos ares a bandeira de Zumbi. Saltei da burra devagar, fui caminhando, e cheguei, fui escutando o que acontecia ali. Cavalgar, cavalgar, eu cavalguei no país brasileiros, conheci o mundo inteiro e por ele eu passei. Cavalgar, cavalgar,